Le nombre de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Bonjour tout le monde! C'est parti pour une émission Le Nombril de Vénus avec toi Sandrine, bonjour!
Bonjour Juliana, bonjour à toutes et à tous!
Eh ben tu vois cette musique?
Oui, ça pulse hein!
Ouais, c'est Foo Fighters en 1997 au Transmusical. Et oui, cette émission aujourd'hui, elle est dédiée à des livres que nous avons choisis. Donc Sandrine, t'as choisi un livre, moi-même j'ai choisi un livre de l'année 1997, puisque c'était l'année que nous avons tiré au sort lors de la dernière émission.
Oui, je me souviens très bien.
Nous sommes en train de remonter le temps, Sandrine. Puisque
absolument.
Pourquoi ? Alors, dis-nous pourquoi.
Eh bien, parce qu'en fait, Canal B a été, est né en 1984. Et tu as décidé, et je trouve ça absolument génial comme idée, qu'on tire au sort à chaque émission une année. Pourquoi ? Pour parler d'un roman, chacune, bien évidemment, toi, Blaise et moi. Et pour proposer à nos auditrices et à nos auditeurs de traverser le temps, d'être dans la littérature, peut-être qui peut nous surprendre, parce qu'évidemment, on ne va pas forcément y aller quand on va sur les rayonnages des librairies ou des bibliothèques. Donc, très, très good idea, j'adore.
Eh bien, et comme nous sommes sur Canal B et que c'est l'anniversaire de 40 ans de Canal B cette année, waouh,
40 ans,
on
ouais.
remonte aussi avec du son de l'année dédiée, ou du moins, moi je ne me suis pas trop cassé la tête quand même, je me suis dit, on a mémoire des trans, on a les trans musicales qui nous accompagnent, donc on va trouver de la musique comme ça.
Très bien, j'adore.
Pour nous accompagner et colorer nos émissions dédiées à la littérature, aux livres qui sont sortis donc cette fois-ci en 1997. On va commencer avec toi Sandrine, donc sachez-le, aujourd'hui Blaise n'est pas avec nous. Et d'ailleurs, on va faire une petite pause la semaine prochaine. Nous allons faire le tirage au sort aujourd'hui, mais nous allons pas parler des années de Canal B, là, des 40 ans, des livres, parce que il y aura bientôt le festival Jardin d'hiver au Champ Libre et nous allons avoir une émission dédiée à la programmation de ce festival, bien sûr. Mais maintenant, 1997, ça t'a inspiré comment? D'ailleurs, comment t'as trouvé ton livre? C'est ça que je veux savoir.
Alors,
aussi.
Je vais juste rebondir deux secondes sur Jardin d'hiver que j'adore et je suis ravie d'y aller. Je sais qu'il y a Nina Bouraoui, dont je suis absolument love, qui va être là dimanche, mais plein d'autres auteurs et autrices.
Ah ouais, plein.
Donc là, j'avais juste envie de parler d'elle, mais je parlerai des autres ensuite. Alors, je vais faire, l'imprimatur de mon livre, je te montre bien le copyright.
Ouais, voilà.
1997, c'est très important, je tiens à ça.
Oui.
Comment j'ai choisi mon livre? En fait, à chaque fois c'est différent, mais là j'étais chez moi dans mon salon, dans ma bibliothèque, et j'aime bien me laisser happer, c'est un peu aussi ce que je fais dans mon travail, d'un seul coup par un auteur, par une autrice, par un ressenti, par un souvenir, une réminiscence. Et puis d'un seul coup j'ai vu le dos, non pas d'un homme, attention, quoique il s'agit de Patrick Modiano
voilà,
en même temps, mais le dos du livre, et de ce dos un petit peu décoloré, usagé, et puis j'ai vu surgir Dora Brunder. Dora Brunder, c'est le titre justement d'un roman de Patrick Modiano, j'ai envie de dire c'est presque le plus important de sa vie, c'est celui qu'il a fait connaître encore plus par rapport à son style, par rapport à ses idées, par rapport à cette douce mélancolie qu'il y a dans chacun de ses ouvrages, de cette douceur aussi bien évidemment, de cette obsession pour la nuit. Alors moi qui suis une octambule, évidemment je l'ai trouvé une nuit chez moi et j'avoue que ça m'a happé parce que ça m'a rappelé non seulement l'histoire, mais ça m'a rappelé toute mon histoire et ça m'a bien évidemment avant tout rappelé l'histoire de cette femme, Dora Brunder. C'est un roman biographique, presque autobiographique, parce qu'en fait on va y voir cette femme et évidemment Patrick Modiano qui est narrateur. C'est un roman extrêmement touchant que je suis très émue de présenter aujourd'hui parce que...
Ça sent.
Oui, c'est vrai, parce que c'est l'histoire d'un homme qui va à la recherche d'une jeune fille qui a disparu. Ça pourrait être toi et moi quand nous étions ados, ça pourrait être une de nos proches, ça pourrait être évidemment pendant l'occupation, et c'est le cas de cette tragédie, de cette histoire tragique. Alors Patrick Modiano nous raconte l'histoire de cette jeune femme, parce que comment est née cette envie d'écrire ? Eh bien, en fait, il est tombé à la une d'un journal, un jour d'un quotidien, et il a vu qu'on recherchait une jeune femme. Alors, ça lui a donné envie d'écrire ce roman et d'aller véritablement à la recherche de cette femme. Alors, on va partager avec
lui. Il a mené lui aussi l'enquête.
Oui, c'est ça, exactement. On va partir avec lui dans Paris, dans différents quartiers, différents lieux. C'est extrêmement touchant, bien évidemment. Alors, je vais lire après quelques pages.
Alors, peut-être Paris est devenu presque un personnage de ce livre.
Oui, c'est vrai, exactement. Paris, on va dire, est féminin à ce moment-là. Et ça devient un personnage, comme dans beaucoup d'histoires de Patrick Modiano. Il y a le premier quand même en 1968, puisqu'on est dans les dates, je n'étais pas née, toi non plus.
On peut le dire.
On va juste dire ça pour aujourd'hui. Bah ouais. Il faut savoir qu'après...
Ça n'a pas tardé d'ailleurs.
Mais bon. Il s'appelle La Place de l'Étoile. Ensuite, on en a d'autres avec Dimanche d'août, Du plus loin de l'oubli, La Petite Bijou, Accident nocturne, L'Horizon, Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Et bien sûr, le dernier qui est sorti en 2021, Chevreuse. On voit déjà qu'à travers ces titres, on pourrait dire que c'est déjà un résumé du livre, bien évidemment, ou une amorce, quelque chose qui nous donne envie, une mise en bouche. Et vraiment, Patrick Modiano est non seulement de dos, mais de face aussi, de profil. Un auteur que j'aime beaucoup parce qu'il a des choses à nous dire. Il me touche, il me bouleverse. Et je suis ravie grâce à cette idée que tu as eue de pouvoir revenir sur ses pas, parce que ça me permet aussi de savoir que je ne suis plus la femme des années 1997, comme toi, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Et Paris, évidemment, que je connais bien. Et cette histoire de cette femme, encore une fois, qui est-elle ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire ? Des choses qui peuvent aussi, évidemment, être de nouveau aujourd'hui remises en avant, l'histoire de cette jeune femme sous l'occupation. Alors, je vais laisser la place au talentueux Patrick Modiano, à l'histoire de cette femme, Dora Bruder, que j'aime beaucoup et dont la mémoire aujourd'hui entre dans cette émission de radio. Je commence la lecture. Il y a 8 ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 septembre 1941, je suis tombée à la page 3 sur une rubrique. D'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu Paris. On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pull au vert bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron. Adressez toute indication à Monsieur et Madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Ce quartier du boulevard Ornano, je le connais depuis longtemps. Dans mon enfance, j'accompagnais ma mère au marché aux puces de Saint-Ouen. Nous descendions de l'autobus à la porte de Clignancourt et quelquefois, devant la mairie du 18e, c'était toujours le samedi ou le dimanche après-midi. En hiver, sur le trottoir de l'avenue, le long de la caserne de Clignancourt, dans le flot des passants, se tenait avec son appareil à trépied, le gros photographe, au nez grumeleux et aux lunettes rondes, qui proposait une photo souvenir. L'été, il se postait sur les planches de Deauville, devant le bar du Soleil. Il y trouvait des clients. Mais là, porte de Clignancourt, les passants ne semblaient pas vouloir se faire photographier. Il portait un vieux pardessus et l'une de ses chaussures était trouée. Je me souviens du boulevard Barbès et du boulevard Ornano désert, un dimanche après-midi de soleil, en mai 1958. À chaque carrefour, des groupes de gardes mobiles, à cause des événements d'Algérie. J'étais dans ce quartier d'hiver 1965. J'avais une amie qui habitait rue Championnet, Ornano 49-20. Déjà, à l'époque, le flot des passants du dimanche, le long de la caserne, avait dû emporter le gros photographe, mais je ne suis jamais allée vérifier. À quoi avait-elle servi cette caserne ? On m'avait dit qu'elle abritait des troupes coloniales. Janvier 1965. La nuit tombée vers 6 heures sur le carrefour du boulevard Ornano et de la rue Championnet. Je n'étais rien. Je me confondais avec ce crépuscule, ces rues. Le dernier café au boulevard du bout d'Ornano, côté numéro pair, s'appelait « Verse toujours ». À gauche, au coin du boulevard Ney, il y en avait un autre avec un jukebox. Au carrefour Ornano Championnet, une pharmacie, 2 cafés, l'un plus ancien, à l'angle de la rue du Esme. Ce que j'ai pu attendre dans ces cafés. Très tôt le matin, quand il faisait nuit, en fin d'après-midi à la tombée de la nuit, plus tard, à l'heure de la fermeture. Le dimanche soir, une vieille automobile de sport noir, une Jaguar me semble-t-il, était garée rue Championnet, à la hauteur de l'école maternelle. Elle portait une plaque à l'arrière. G.I.G., grand invalide de guerre. La présence de cette voiture dans le quartier m'avait frappée. Je me demandais quel visage pouvait bien avoir son propriétaire. À partir de 9h du soir, le boulevard était désert. Je revois encore la lumière de la bouche du métro Simplon et presque en face, celle de l'entrée du cinéma Ornano 43. Je m'arrête là. Bien évidemment, on est dans la situation, dans le décor.
Waouh, j'étais bien avec toi, là, en train d'écouter.
Merci.
Ouais, c'est chouette.
Merci beaucoup, ça m'émeut beaucoup. Et, ouais. Et je vous invite vraiment à le lire, c'est passionnant. C'est une histoire vraie. On va découvrir comment va être la vie de cette femme en 1941. Et vous avez bien compris que le narrateur, c'est une autre époque. C'est un roman où les deux destins se croisent. C'est un roman magnifique. Merci beaucoup.
Oui, je suis vraiment ravie que tu nous as fait part de ce livre. Merci à toi, Sandrine. Et toujours avec cette lecture sensible, très agréable. Tu as le don d'une conteuse quand tu lis. C'est très, très chouette.
Merci beaucoup.
Maintenant, je vous propose une musique différente. C'est-à-dire que c'est pas, ça ne fait pas partie de la compilation des transmusicales de 1997, puisque je, comme ça, en regardant les musiques différentes de 97, je suis tombée sur ce morceau dans une compilation, je ne sais même pas comment il s'appelle, mais je l'ai trouvé chouette, alors voilà, partageons-le. C'est un sacré délire.
Waouh.
Ouais, vous êtes sur Canal B, 1997, ça vous parle? Eh ben, c'est l'année de cette musique que je viens de découvrir en faisant des recherches sur Internet, parce que nous sommes avec Sandrine en train de parler de cette année 1997 qui... En remontant le temps, on nous donne la possibilité de vous parler des livres. Et là, évidemment, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne savais même pas qui était ce morceau. Et en fait, on a trouvé. Ça ne m'étonne pas qu'elle a retenu toute mon attention. Le morceau s'appelle Caipirinha. Caipirinha. Caipirinha, quoi. La boisson brésilienne. Caipirinha. Et c'est de DOP. D-O-P, hein, 1997. C'est toi qui as trouvé avec Shazam,
Sandrine. Ben voilà, on utilise les outils... proposer.
Voilà, pour trouver. Alors que je l'avais hein, sur mon écran, bien sûr, mais comme j'ai éteint le truc bien avant, bon, bah bref.
Bah voilà.
Vous savez tout maintenant. Donc là, Canal B fête ses 40 ans. Nous sommes en train de remonter ce temps. Et à chaque fin d'émission, tirage au sort pour savoir de quelle année, de quel livre on va choisir. Alors, j'étais très touchée tout à l'heure, Sandrine, quand tu as commencé à raconter comment tu as trouvé ton livre. De Mondiano, parce que en fait j'ai agi exactement comme toi, c'est-à-dire que bah évidemment on commence par des recherches internet, le prix littéraire, qu'est-ce qui s'est passé machin en 97, mais finalement je me suis dit, entourée de livres que je vis, je vais commencer à simplement piocher dans ma bibliothèque. Pourquoi ? C'est tellement chouette de pouvoir aussi revenir sur des fondamentaux. On découvre d'ailleurs des livres qu'on n'a pas encore lus, hein, parce que voilà, parfois, je ne sais pas, des achats compulsifs, etc. Et puis, je ne suis pas seule, je vis avec d'autres personnes. Mon mari, par exemple, qui est un grand lecteur. Donc, on va se retrouver avec une maison, avec une bibliothèque bien, bien garnie. Et là, je me suis amusée à passer un long moment en train de regarder les copyrights pour trouver celui qui allait effectivement collé à l'année 1997. Donc, c'est plutôt comme ça que j'ai choisi mon livre, en tombant sur ce livre de littérature japonaise qui a été, lui, alors je pense début d'année 90 ou 92, publié au Japon, mais la traduction, elle est sortie ici dans les éditions Seuil, c'est un roman, en 1997, et je commençais la lecture de ce livre sans savoir où cela allait m'amener. Ça s'appelle « Soleil levant » et l'auteur s'appelle Akira Uka. Alors, j'ai essayé de faire des recherches sur l'écrivain pour pouvoir vous dire un mot. Je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé un livre précédent qui avait été primé au Japon, un livre des années 1990. Puis, 7 ans se sont passés avec la traduction, bien sûr, ici, chez nous. Par Karine Chenot, d'ailleurs une traduction vraiment, j'adore, tu vois, enfin c'est un métier, on n'en parle pas assez. Hein.
Tu peux me redonner son nom ?
Bien sûr, Karine Chenot.
Ok, très bien. Ouais. Eh ben ouais, c'est important, les traducteurs.
Mais oui, parce que le travail est titanesque.
Complètement.
Je vais commencer à vous parler. D'ailleurs, ça fait un écho avec Orwell, l'émission précédente, dans le sens où on est là encore dans quelque chose de fantasmagorique, on va dire. Hein, vraiment. Le personnage principal est chez lui. Il ouvre les yeux et découvre face à lui un être qu'il n'a jamais vu de sa vie. Un homme est donc présent dans son appartement. Intimidé par cette présence en plein réveil, le personnage principal est à ce moment-là traversé par des sentiments personnels, mais aussi des perceptions plus conventionnelles, tu vois, qui sont décrites et qui nous permettent d'emblée d'entrer dans une atmosphère japonaise avec ses codes d'éducation, de relations. Cet homme qui est présent dans l'appartement est en réalité un esprit. Il s'appelle Lèche Crasse. Et de son vivant, tu vois, comme toi et moi, son hobby principal, celui qu'il adorait, c'était de lécher la crasse, notamment des salles de bain. Waouh, tu vois, un loup délire, quoi. On découvre alors une fiction fantastique. La proposition de l'auteur est d'amener jusqu'à la portée du lecteur le dévoilement des sujets intimes de la société japonaise qui sont décevants, même parfois insupportables, on va dire. Nous allons par exemple, grâce à une relation semi-amoureuse entre le personnage principal et une femme japonaise d'origine coréenne, découvrir le choc provoqué par la guerre et les crimes qui vont avec. La rencontre du personnage principal avec un ancien yakuza nous permet de saisir les rouages d'une certaine corruption. Et il y a aussi des moments, bien sûr, poétiques liés aux sentiments amoureux et quelques situations absurdes qui peuvent être carrément drôles, quoi. Mmh. Mais ce qui se passe là, c'est que l'auteur dévoile, grâce à ce texte qui est faussement gentil, la société japonaise des apparences sans les apparences, avec ses névroses. Mmh. C'est un texte d'une finesse rare, un bijou politiquement incorrect que je vous conseille vraiment vivement. Et puis, je dis encore une fois que la traductrice Karine Chenot, je ne sais pas si une autre traduction en français existe, mais là, franchement, son travail est tellement subtil. Je pense qu'elle la connaît bien, je ne sais pas, peut-être d'emblée déjà le Japon, quoi. En tout cas, elle nous embarque vraiment dans ce voyage avec elle. Et je crois que l'auteur, il peut quand même se dire qu'il a été traduit avec brio. Parce que voilà, on est dans ses sensations, dans ses perceptions. C'est une fiction, encore une fois, très allégorique, et on va toucher à ces sujets, mais avec cette finesse, cette délicatesse, alors qu'on est en train de parler des trucs qui sont, tu vois, parfois assez inacceptables. Mmh, oui. C'est vraiment, franchement, assez hallucinant. En plus, il y a des esprits, à un moment donné, on arrive dans un hôpital psychiatrique. Enfin, voilà, c'est vraiment canon. Soleil levant, je ne vais pas vous en dire plus. Mmh. Une toute petite minute de lecture, je vous propose, parce que je voulais, alors à contrario de la description ou du rapport de cette personne avec ses interlocuteurs, je voulais juste vous montrer un petit peu quels sentiments pouvaient le traverser dans la découverte, le changement, la métamorphose qu'il est en train de vivre, ce personnage principal, dans cette aventure, encore une fois, un peu fantastique, qui propose le livre.
Avec grand plaisir.
Je restais interdit devant la fragilité de mon système édifié au cours des longues années et dont j'avais trop présumé, m'imaginant qu'il s'agissait d'une véritable forteresse. L'efficacité des frictions avait facilement été réduite à néant. En outre, aujourd'hui, je prenais presque plaisir à évoluer dans une incertitude que je ne savais pas complètement gérer. Pour moi, autrefois, le désagréable n'était rien d'autre que désagréable, et les choses sur lesquelles je n'avais pu statuer n'étaient qu'aberrations à laisser pour toujours enfermées dans une boîte portant l'étiquette « affaires non classées ». Mais ce type de bon sens commençait à m'abandonner. Peut-être un petit esprit se trouvait-il dans mon corps, qui rongeait en me mordant au son mes organes, mon cœur, mon estomac, mes poumons, et cherchait à me faire perdre la raison, en manipulant avec une grande habileté une sensation dont je ne pouvais déterminer s'il s'agissait de douleur ou de délice. Voilà, voilà.
Eh bien, c'est très saisissant comme texte.
Ouais.
C'est saisissant, ouais. Bouleversant, remuant. Mmh. Et ça donne très envie de lire la suite, évidemment.
C'est-à-dire que je crois qu'il y a peu de chances qu'on le lise en japonais.
Hein. Oui, en tout cas pour ma part, ça c'est
voilà,
sûr.
Moi c'est pareil. Mais cette traduction et ce passage montrent bien cette finesse de cet auteur.
Absolument.
Il y a plein de moments comme ça en fait. Mmh. Il nous embarque dans cette histoire de Soleil levant, donc un roman que j'ai trouvé dans ma bibliothèque qui est paru aux éditions Seuil 1997 de Akira Uka.
Très bien.
Eh ben, c'est bientôt la fin de l'émission,
c'est ça.
Ma très chère. On va peut-être quand même revenir un petit peu sur Jeff Miles. Jeff Miles,
oh,
tu
excellent.
Sais.
Eh ben,
il était venu au Transmusical en 1997.
Ouais.
C'est la fin de l'émission. Le nombril de Vénus sur Canal B.
Eh bien, on va bientôt se quitter. Alors, Sandrine, comme je disais tout de suite,
ouais.
Mais avant cela, et pour continuer d'écouter un petit son Jeff Miles ensemble, est-ce qu'on fait ce tirage au sort
Allons-y.
Pour savoir
Allons-y, Allez. J'ai hâte.
Alors,
mais
appuie
oui.
sur le bouton.
Eh bien, écoutez, hop. Et ah. voilà. 2002 apparaît.
Wow.
2002.
Allez.
Eh bien,
allez.
Écoute, j'ai déjà des titres qui sortent de ma mémoire.
Ah bon?
Je sais pas. Ouais.
Ah
non,
la
mais...
vache, quelle mémoire.
Non, c'est
elle
parce que
incroyable.
C'est exceptionnel pour moi. Donc, évidemment.
Ah oui, d'accord. Bon, si c'est exceptionnel, écoute, ça sera un grand cru. Donc, pas la semaine prochaine, mais la semaine
Avec
suivante, 2002, on continue de remonter
oui.
le temps. Joyeux anniversaire, Canal B.
À très bientôt.
À très bientôt. Bisous. Bye.
Ciao.